Philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph le 7 février 85.
Nous avions essayé de comprendre un peu ce qu'est la qualité chez Plotin. J'avais dit que c'était particulièrement difficile. Bien que toute la philosophie de Plotin, d'une certaine manière, soit une philosophie purement qualitative, je crois, ce serait intéressant à bien préciser ça. Mais c'est justement à cause de ça, peut-être que c'est très difficile, parce qu'il ne la dépasse pas. Quand on est en plein dans un sujet et qu'on ne le dépasse pas, on n'arrive pas à l'exprimer. Et c'est peut-être le cas de Plotin, vous voyez. Alors, ce qui est important, c'est ce que je vous disais à la fin, c'est lorsque l'être est sur le point de procéder vers l'inférieur que naissent la qualité et la quantité. On peut donc affirmer que les substances sensibles sont des substances qualifiées. Mais qu'est-ce qui fait que l'ousia simple devienne l'ousia qualifiée? Plotin répond, ramassées en une matière unique, les qualités sont une ousia, prises chacune à part, elles sont qualité, quantité ou qualité de plusieurs sortes. Elles sont ce qui advient à l'ousia une fois engendrée et la différencie. L'univers sensible n'est qu'une image de l'ousia véritable et l'ousia sensible n'est qu'une prétendue ousia. C'est pourquoi l'ousia sensible peut impliquer un mélange et d'une certaine manière, la qualité la différencie. Car Socrate, c'est l'homme en général, plus telle qualité. C'est ça qui est très curieux. Même l'espèce humaine, prise dans le corps, se ramène à une qualité d'un corps. La prétendue ousia sensible est une qualité, une image du logos et de la cuidité. Alors, il faudrait se demander qu'est-ce que c'est que la cuidité chez Plotin. Ce sera encore une autre difficulté. Se demander ce que c'est que la cuidité chez Aristote, c'est pas commode. Et arriver à découvrir ce que c'est que la cuidité chez Plotin, c'est encore beaucoup plus complexe. Parce que c'est justement où les distinctions sont beaucoup moins précises. Enfin, si l'on veut saisir la naissance de la qualité intelligible, il faut considérer l'intelligence contenant le nombre, considérer son unité et sa multiplicité, la multiplicité de ses puissances très grandes. Si tu vois en elle cette grandeur, accompagnée de la beauté de son ousia, environnée d'éclat et de lumière, voici que tu vois aussi s'épanouir la qualité. C'est purement descriptif. C'est pas autre chose. La qualité apparaît comme l'épanouissement d'un être. C'est la pivoine. C'est le pan qui fait la roue. C'est ça la qualité. C'est épanoui. On est dans un état qualitatif. On est épanoui. Et au fond, la qualité se ramène à l'état de perfection. C'est l'état de perfection d'un être. Alors, c'est complexe, c'est pas du tout quelque chose qu'on peut préciser, c'est quelque chose de complexe. Ailleurs, expliquant que le nombre et la quantité naissent des premiers qui sont l'intelligence, l'être, l'altérité, l'identité, le mouvement et le repos, Plotin ajoute « la qualité est la propriété de chacun de ceux-ci, comme principe suivent les autres ». C'est un état de perfection. Et je crois qu'on peut dire que c'est un état de perfection. Un état de perfection d'une réalité complexe. On peut dire en résumé que la qualité chez Plotin est extérieure à l'ousia, c'est un état. L'ousia étant elle-même au niveau de l'être intelligible, tandis qu'elle caractérise le monde sensible qui est profondément un monde de quantité et de qualité. Un état de perfection dans le monde sensible, la qualité, avant tout. Donc, c'est pas... pas la peine de regarder plus. Il faudrait regarder maintenant, faisons une topique rapide, après avoir montré la grande montée jusqu'au Plotin, mais une montée, voyez, d'intériorité. Alors, Plotin nous donne une connaissance intérieure de la qualité. Ça fait des opérations. Et en même temps, les qualités sensibles. Toujours la double aspect constant de Plotin. Le monde sensible, le monde intelligible. Et il oppose les deux. Ce qu'on retrouve chez Descartes, la substance quantifiée, la substance pensante. C'est de Plotin, ça. C'est très, très curieux. Parce que c'est vraiment quelque chose qui... C'est plus de Plotin, vous voyez, que de Platon. Tandis que de Plotin, ça c'est vraiment le Plotin. Alors, nous avons ensuite la manière dont les théologiens se sont servis de la qualité. Ce serait très intéressant de regarder la qualité chez saint Thomas. Le père Médieu avait fait une thèse au Saulchoir sur la qualité chez saint Thomas. Et le père Thomas... Mon frère avait fait une thèse sur la quantité chez saint Thomas. Et là, ces deux thèses ne sont pas parues. Alors, au bout d'un certain temps, ça disparaît. Et je crois qu'à travers tous les voyages, j'ai essayé de retrouver, parce que c'était quand même intéressant, le Père Médieu avait relevé tous les textes sur la qualité chez saint Thomas. C'est intéressant à faire ça. C'est énorme comme travail. Parce que quand vous regardez une page de saint Thomas, vous voyez que la qualité apparaît tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas une philosophie de la qualité, ce n'est pas une théologie de la qualité, mais ça apparaît tout le temps. Alors, on peut se poser la question, loyalement, saint Thomas a-t-il une conception différente de la qualité que chez Aristote? Et je crois qu'il faut répondre que non. La conception de la qualité chez saint Thomas, c'est exactement celle d'Aristote. Alors là, vraiment, il n'y a rien de changé. Même Gilson ne trouve pas une différence. Donc, on peut y aller. Parce que il n'y a pas possibilité de trouver de différence. Il dit qu'il y a une nouvelle métaphysique chez saint Thomas, mais on ne trouve pas quel est le principe. Mais il ne dit pas qu'il y a une nouvelle qualité, une conception de la qualité chez saint Thomas par rapport à Aristote. C'est la même conception. Alors, il y a une grave question pour notre cher Occam. Demandez ça à M. Murat. Pour Occam, la qualité est-elle vraiment distincte de la substance et de la quantité? La question est plus complexe et plus nuancée qu'on l'a dit parfois. Ce qui semble certain, c'est que pour lui, certaines qualités seulement sont distinctes de la substance. Et que la quantité, comme nous le verrons, n'est pas distincte de la substance ou de la qualité. Ça, c'est énorme. Il faut savoir ça. Oui, parce que si justement la qualité est quelque chose d'indivisible et que la quantité c'est le divisible, vous voyez tout de suite, c'est à partir de la quantité que nous prenons notre conditionnement. Et la qualité, au contraire, c'est le domaine propre des connaissances distinctes, non pas du tout du conditionnement. Et ce qui est très caractéristique de sa pensée, c'est qu'il confond, en traitant de la qualité, le niveau logique et le niveau métaphysique, et réduit celui-ci à celui-là. Ainsi, pour résoudre la question de savoir si une qualité est réellement distincte de la substance ou non, il suffit pour Occam de savoir si le prédicable peut ou ne pas se vérifier successivement d'un même sujet en raison du seul mouvement local. Nous sommes donc bien ici au niveau du terme et non de la qualité métaphysique proprement dite. Donc, on peut dire que chez Occam, nous commençons à voir la confusion entre qualité et quantité. Alors, je n'insiste pas plus. Il y aurait à voir de Descartes aux philosophes contemporains. C'est intéressant à faire comme petite enquête. Si Descartes emploie parfois le mot « qualité » en un sens qui rejoint au plus élémentaire le sens que le mot « poionti » dans les catégories d'Aristote, par exemple lorsqu'il distingue les propriétés ou qualités de l'esprit des propriétés ou qualités des corps, donc vous retrouvez la même distinction que chez Plotin, les qualités des corps et les qualités des esprits. Il réserve d'une façon plus précise le terme de qualité aux qualités sensibles, à ce que l'école, et Suarez encore, appelait sensible propre et sensible commun. Or, ce que l'on appelait sensible propre pour lui n'existe pas réellement, mais se réduit au sensible commun. C'est peut-être ça qu'on doit plus se rappeler quand il s'agit de Descartes. Il s'agit de la qualité. Alors, un tout petit mot là-dessus, parce que ça c'est très important, c'est un grand tournant au point de vue de la pensée. C'est déjà vrai chez Occam. C'est déjà vrai chez Occam. De sorte que Descartes là, comme presque toujours, suit Occam. Alors, il y a ce fait. Vous devez le savoir au bout d'un certain temps. Les sensibles propres et les sensibles communs. Les sensibles propres, c'est propre à chacun des sens. La lumière, elle ne se touche pas. Hein? Toucher un peu la lumière. C'est très difficile de toucher la lumière. C'est très difficile. On n'arrive pas à toucher la lumière. La lumière touche notre œil, oui. Alors on ferme hein, quand la lumière est trop intense. Hein? Mais on ne touche pas la lumière, on la voit. On ne sent pas la lumière. Donc, les sensibles propres sont saisis à un sens particulier. Les sensibles communs sont saisis par les divers sens et donc ne sont plus saisis par un sens particulier. Quels sont les sensibles communs? Il y en a cinq. Vous devez les savoir par cœur. Hein? Vous devez les savoir. Le nombre, le continu, la grandeur, le mouvement et la figure. Ça, il faut les savoir. Hein? Il faut les apprendre une fois dans sa vie. Alors, le grand chic, ce serait se demander si, parce qu'il y a cinq sensibles propres et cinq sensibles communs, alors y a-t-il un lien? C'est une question qui n'a pas été traitée et qui serait très intéressante à traiter. Vous voyez, je prends par exemple la lumière. La lumière, c'est saisie par l'œil, c'est évident. La lumière est toujours liée à un sensible commun. C'est pour ça qu'on peut mesurer. Toutes les qualités sensibles propres sont liées à des sensibles communs. Et par les sensibles communs, on peut les mesurer. Le sensible propre ne se mesure pas, il se saisit, tandis que le sensible commun se mesure. Alors, y a-t-il un lien entre tel ou tel sensible propre et sensible commun? Oui. Ils sont saisis par tous, hein, faut bien comprendre. Ils sont saisis par tous. Mais y a-t-il un point d'insertion où c'est plus? Ça, c'est une question qui n'a pas été traitée. Tandis que la question, Aristote fait la distinction de sensible propre et sensible commun, c'est Aristote le premier qui l'a fait. Saint Thomas l'a repris. Et puis, voyez, après Occam, puisque de fait, la quantité va absorber la qualité, eh bien, la quantité commence à absorber la qualité par les sensibles communs qui absorbent les sensibles propres. Et Descartes, alors, le dit lui magistralement. Pour Descartes, seuls les sensibles communs sont objectifs. parce qu'ils sont mesurables. On identifie l'objectivité et le mesurable. Les sensibles propres ne sont pas objectifs parce qu'ils ne sont pas mesurables. Ils sont indivisibles, donc ils ne sont pas mesurables. Alors, vous voyez, ça c'est très très important. Un point sur lequel je crois ceux qui veulent saisir la naissance de la philosophie, la naissance de la science par rapport à la philosophie, c'est cela qu'il faut saisir. La philosophie se sert des sensibles propres, la science commence avec les sensibles communs, ce qui est mesurable. Alors, vous voyez, quand on essaie de voir par rapport à la réalité, l'ARES est saisie par le philosophe, elle est saisie par le savant. Mais elle est saisie par le savant, par le mesurable, elle est saisie par le philosophe, par les sensibles propres. La philosophie, c'est toujours du pointillé par rapport à la science. Hein. Vous voyez bien, tandis que la science, c'est du continu. C'est du pointillé, parce que c'est les sensibles propres, qui ne sont pas mesurables. J'ai saisi ou les saisis pas. Mais il y a un lien entre les deux, puisque dans l'existence des sensibles propres, les sensibles propres ne peuvent jamais exister sans les sensibles communs. Je peux donc abstraire les sensibles propres, les laisser tomber, et ne voir que les sensibles communs. Abstraction scientifique. Et je peux saisir les sensibles propres et les distinguer des sensibles communs, philosophie. La connaissance philosophique est là, à la différence avec la science. Une fois qu'on a saisi ça, on comprend comment Descartes, qui laisse tomber les sensibles propres, va avoir une philosophie qui va nécessairement s'appuyer sur les mathématiques. Les sensibles communs sont seul objectif. C'est pour ça que l'idéal de Descartes, c'est toujours d'arriver à une argumentation modo-géométrique. Parce que c'est la seule qui est parfaitement mesurable. Donc là, il y a quelque chose d'important à saisir. Or, ce qu'on a appelé sensible propre pour lui n'existe pas réellement, mais se réduit au sensible commun. La preuve en est que tout ce que nous pouvons concevoir clairement et distinctement dans les choses corporelles se ramène à fort peu de choses, à savoir la grandeur ou bien l'extension en longueur, largeur et profondeur, la figure qui est forme et les bornes exterminationnées de cette extension, la situation que les corps diversement figurés gardent entre eux et le mouvement ou le changement de cette situation auquel on peut ajouter la substance, la durée et le nombre. Quant aux autres qualités, couleurs, sons, etc., elles se rencontrent dans notre pensée avec tant d'obscurité et de confusion que nous ignorons même si les idées que nous en concevons sont en effet les idées de quelque chose réel, ou bien si elles ne représentent que des êtres chimériques qui ne peuvent exister. On va très bien laisser tomber les sensibles propres et ne retenir que les sensibles communs. Je crois que c'est très important pour comprendre Descartes. Au fond, Descartes se comprend par les idées innées et les sensibles communs. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez construire toute la philosophie de Descartes. Il a laissé tomber les sensibles propres. Alors, une question qui se pose, et auquel il faut tout le temps essayer de réfléchir, pouvons-nous encore parler du jugement d'existence si on laisse tomber les sensibles propres? C'est au fond une question de critique, si vous voulez, mais c'est une question qu'il faut se poser. Or, comme nous sommes ici dans les qualités, c'est très important. Les qualités, nous le verrons du reste, si vous le point de vue philosophique, c'est ce qui nous est donné de la manière la plus immédiate. Alors, on comprend très bien que si on supprime ce caractère immédiat avec les réalités, on ne peut plus. La réduction de la qualité aux seules qualités primaires, mode de la matière. C'est encore tout un aspect que nous trouvons alors dans Locke, et c'est une succession de Descartes. La réduction de la qualité aux perceptions, c'est très curieux. Quand vous faites cette étude, vous voyez tout le temps que la qualité se ramène à autre chose. On a beaucoup de peine de regarder la qualité pour elle-même. C'est quelque chose qui nous échappe. Et c'est vrai, ça. Alors, je vais tout de suite avec vous dire un tout petit mot sur le point de vue de la qualité dans l'hégélianisme. C'est un des aspects très intéressants, ça. C'est toujours intéressant, du reste, d'une façon générale, de se demander comment un philosophe conçoit les qualités ? Comment un philosophe conçoit l'art ? Parce que vous comprenez très bien que si on ne conçoit plus les qualités, c'est très difficile de concevoir l'art. Couper, supprimer toutes les qualités sensibles, tous les sensibles propres, que devient l'art ? C'est pour ça que Descartes n'est pas précisément quelqu'un qui a bien saisi ce que c'était que l'art. Pour essayer de comprendre chez Descartes, devenir un artiste à la manière de Descartes, vous verrez que c'est quand même quelque chose de fameux. Alors, vous avez avec Hegel la conception dialectique de la qualité. La contribution de Hegel en ce qui concerne la qualité est plus importante. Hegel reproche à Schelling de n'avoir pas su, dans sa philosophie de la nature, manier la qualité parce qu'il n'est pas parvenu à l'exprimer dialectiquement ou conceptuellement, ce qui signifie la même chose pour Hegel. C'est très intéressant. Tant qu'on n'a pas saisi une chose dialectiquement, on n'a pas saisi conceptuellement. Donc on ne la maîtrise pas. On maîtrise une chose que quand on la conçoit dialectiquement. Cette philosophie de la nature, philosophie des puissances et non du concept, reste une philosophie de la différence indifférente ou de la grandeur. Plus sensible que Schelling aux oppositions qualitatives, Hegel reproche à ce dernier d'avoir traduit quantitativement le réel en cherchant à retrouver sous forme de puissance ou de degré une même intuition absolue dans tout le réel. Ce qui implique que les oppositions qualitatives soient effacées, que le concept disparaisse au profit de la différence indifférente qu'est la quantité. Et que l'on en reste à une identité homogène qui ne parvient pas à se distinguer et à s'opposer en elle-même. De la doctrine de Hegel lui-même, nous ne mentionnons ici donc deux points. Hegel, pour Hegel, la qualité n'est pas une propriété. Elle ne relève pas de l'avoir, mais de l'être même de quelque chose. Je vous lis ce passage. Il ne faut pas confondre la propriété avec la qualité. On dit, certes, oui, la propriété n'est pas toujours qualité. Non. Toute qualité n'est pas propriété, mais la propriété est qualité. Toute qualité n'est pas propriété. Vous êtes rouge, ce n'est pas votre propriété. Parce que vous avez été baigné par le soleil, alors vous êtes rouge, n'est-ce pas ? Bon, alors c'est pas une propriété, c'est une qualité. Quelqu'un qui rougit, n'est-ce pas ? quelqu'un qui rougit parce qu'il offre de bons, des bonbons excellents au père Emmanuel. Alors, quelqu'un qui rougit. Et, alors, à ce moment-là, est-ce que c'est une propriété? Non, ce n'est pas une propriété. C'est une qualité passagère, rougir. Qualité passagère. Tandis qu'au contraire, une capacité d'être capable de rire, ça, c'est une propriété. Oui, il y a des qualités passagères qui ne sont pas des propriétés. Et puis il y a des propriétés qui, elles, demeurent, qui sont des qualités. Donc il s'agit de distinguer qualité et propriété. Eh bien, Hegel n'a pas fait cette distinction-là. Alors pourquoi n'a-t-il pas fait cette distinction? Il ne faut pas confondre la propriété avec la qualité. On dit certes aussi que quelque chose a des qualités. Cette expression, cependant, est inadéquate dans la mesure où l'avoir indique une subsistance par soi qui n'appartient pas encore au quelque chose immédiatement identique à sa qualité. Quelque chose n'est ce qu'il est que par sa qualité. Alors qu'au contraire, la chose, si elle n'existe pas, si elle n'existe pareillement que dans la mesure où elle a des propriétés, n'est pourtant pas liée à telle ou telle propriété déterminée et peut donc aussi la perdre sans cesser pour cette raison d'être ce qu'elle est. Vous voyez la distinction entre le point de vue de la propriété qui rate de la qualité de la propriété. La propriété est de l'ordre de l'avoir. Et la qualité de l'ordre de l'être. Très cru. La distinction entre être et avoir, vous voyez bien, elle dépend de là. La qualité est un degré de l'être. Ah, ça, c'est tout à fait stoïcien. C'est le tonos. La qualité est un degré de l'être, une des premières formes de l'être, et donc l'une des plus abstraites. Je vous lis ce passage, c'est très curieux et c'est très intéressant, parce que ça, c'est très significatif de la pensée hegélienne. Chaque sphère de l'idée logique se montre comme une totalité de détermination, et comme une présentation de l'absolu. Ainsi en est-il de l'être qui contient en lui les trois degrés de la qualité, de la quantité et de la mesure. La qualité est avant tout la déterminité identique à l'être. Alors voilà la meilleure définition de la qualité. Chez Hegel. Enfin, vous avez... La qualité est avant tout la déterminité, donc ce par quoi quelque chose est déterminé, hein, la déterminité. La déterminité identique à l'être. Donc ce qui détermine, ce qui est capable de déterminer, ce qui est capable de déterminer l'être, c'est la qualité. Nous nous disons que l'être est par lui-même déterminé. Le principe de l'être, c'est la substance, et la substance est source de toutes les déterminations. Tandis que pour Hegel, ce qui est capable de déterminer l'être, c'est la qualité. Mais on reste à un point de vue descriptif. C'est évident qu'au niveau descriptif, tout ce qui détermine est qualité. Tout ce qui est déterminé est qualité. La qualité est avant tout la déterminité identique à l'être, de telle sorte que quelque chose cesse d'être ce qu'il est s'il perd sa qualité. La quantité par contre, alors ça c'est très intéressant aussi, la quantité par contre est la déterminité extérieure à l'être, pour lui indifférente. Ainsi, par exemple, une maison reste ce qu'elle est, qu'elle soit plus grande ou plus petite, ou un rouge reste un rouge, qu'il soit plus clair ou plus long, ou un plus grand nombre. Donc l'aspect de la quantité ne varie pas l'être d'une chose, c'est extrinsèque. Le troisième degré de l'être, c'est la mesure. Vous voyez, les trois degrés de l'être, qualité, quantité, mesure. Le troisième degré de l'être, la mesure, est l'unité des deux premiers, c'est évident. Il y a une opposition dialectique, hein, une opposition dialectique entre quantité et qualité. La qualité reste le premier moment, il y a la quantité, puis la synthèse, puis la mesure. Ici, c'est les trois degrés de l'être. Faut évidemment, hein, si vous avez la tête aristotélicienne, faites attention. Vous devez dévisser la tête et arriver à se concevoir d'une façon égalienne. Les changements de vitesse ne sont pas les mêmes, vous voyez. C'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. C'est qualité, quantité, mesure. La mesure est l'unité des deux premiers. La quantité qualitative. La mesure, c'est la quantité qualitative. À partir de la mesure, se produit le passage à la deuxième sphère principale de l'être, à l'essence. Alors là encore, hein, cherchez bien. À partir de la mesure, se produit le passage à la deuxième sphère de l'être, à la deuxième sphère principale de l'idée, à l'essence. Ces trois formes de l'être indiquées ici sont précisément parce qu'elles sont les premières, en même temps les plus pauvres, c'est-à-dire les plus abstraites. Alors, rappelons, quelle est la genèse de ces trois formes de l'être ? L'être pur, le néant pur, abstraction aussi vide l'une que l'autre, et qui ne font qu'un, s'unissant dans le devenir en lequel ils se suppriment réciproquement. N'oubliez jamais, hein, c'est le premier moment dialectique de Hegel, hein, c'est l'être pur, et le néant pur, d'où naît le devenir. Le devenir naît de l'être et du néant, c'est sûr. Par-delà, le devenir se montre comme ce qui est absolument sans repos, mais ne peut se conserver en cette abstraite absence de repos, puisque l'être et le néant disparaissent en lui. Il est lui-même quelque chose qui disparaît, cependant le résultat de ce processus n'est pas le néant vide, mais l'être identique à la négation. Quand vous avez pigé ça, vous avez compris ce que c'était que le devenir. Hein. C'est ce que Hegel appelle le Dasein, qui est un devenir. Qu'est-ce que c'est que ce Dasein ? Le Dasein est l'être avec une déterminité qui est en tant que déterminité immédiate ou dans l'élément de l'être, la qualité. Vous voyez, vous avez compris. Là, il faut comprendre. Soyez un peu intelligent, vous arriverez à comprendre au bout d'un certain temps. Qu'est-ce que c'est que ce Dasein, je répète. Le Dasein. Et l'être, je dis bien, je répète, c'est pas une parole vivante, hein. Bon, le Dasein est l'être avec une déterminité qui, en tant que déterminité immédiate, ou dans l'élément de l'être, la qualité. C'est toujours la même chose. La déterminité immédiate de l'être, c'est la qualité. Une fois que vous avez pigé ça, vous avez compris. Ça peut se comprendre. Le Dasein, en tant qu'il est, dans cette déterminité qui est la sienne, réfléchit en lui-même et en étant là, un quelque chose. et la qualité en tant que déterminité qui est face à la négation contenue en elle, mais différente d'elle, et réalité. Et comment on compose la réalité? C'est ça qui est intéressant à voir. On compose la réalité, on refait la réalité. Nous, nous partons de la réalité est une conclusion, c'est une synthèse. Et on la réalise. Reprenant à son compte le omnis determinatio est negatio de Spinoza, Hegel affirme que l'assise fondamentale de toute déterminité est la négation. C'est la négation dans le Dasein, négation qui est encore immédiatement identique à l'être, qui est la limite. Quelque chose n'est ce qu'il est que dans sa limite et par sa limite. Hegel précise que c'est avant tout de la limite qualitative qu'il est question, plutôt que de la limite quantitative. La qualité est donc, chez Hegel, conçue essentiellement comme limite ou détermination. Non, limite et détermination étant confondues du reste. C'est la capacité déterminée, donc c'est la limite. Dans le Dasein, ou dans le quelque chose, la déterminité est une avec l'être. Elle qui, posée en même temps comme négation et limite, borne. C'est pourquoi l'être autre n'est pas de l'indifférente extérieure à lui, mais son propre moment. Quelque chose est, du fait de sa qualité première finie et deuxièmement variable, de telle sorte que la finité et la variabilité appartiennent à son être. Alors, je crois que ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est par la qualité qu'il détermine l'être. Et elle est ce qui, dans l'être, est déterminé. Il y a quelque chose de très juste là-dedans. Nous essaierons de voir. C'est quelque chose de juste de voir que la qualité, c'est la déterminité de l'être. Si je suis dans l'ordre descriptif, ben, c'est ça qui détermine l'être. Je ne peux pas dire autre chose. Qu'est-ce qui vous détermine? C'est vos qualités. C'est vos qualités qui vous déterminent. Alors, deuxième point. Sans nous attarder ici au processus dialectique par lequel la qualité passe dans la quantité, l'une et l'autre donnant lieu à un troisième moment qui est la mesure. Il y a une espèce d'opposition et de passage, hein, moment dialectique. La qualité passant dans la quantité devient mesure. C'est toujours comme ça qu'il faut concevoir le moment dialectique. Hein. Il y a un processus. Nous nous opposons. Mais en réalité, il y a un processus qui fait que l'un passe dans l'autre. Et là, nous avons la mesure. C'est pour ça qu'une quantité qualifiée est mesure. C'est le propre de la mesure. Rappelons simplement cet autre grand aspect de la doctrine hegelienne, tel que Hegel le présente dans la théologie de l'esprit. Le progrès par saut qualitatif. L'esprit ne se trouve jamais dans un état de repos, mais il est toujours emporté dans un mouvement indéfiniment progressif. Seulement, il en est ici comme dans le cas de l'enfant. Après une longue et silencieuse nutrition. On voit bien, hein, regardez le gosse, hein, il a pris son biberon. Alors après, on voit Hegel regardant le gosse, après son biberon. C'est extraordinaire, dommage qu'on n'a pas la photo. Bon, après une longue et silencieuse nutrition, la première respiration, dans un saut qualitatif, interrompt brusquement la continuité de la croissance seulement quantitative. C'est admirable. Vous avez le saut qui va expliquer le point de vue qualitatif. Et c'est alors que l'enfant est né. Ainsi, l'esprit, qui se forme, mûrit lentement et silencieuse jusqu'à sa nouvelle figure, désintègre fragment par fragment l'édifice de son monde précédent. C'est très très intéressant pour comprendre la dialectique, ça. Parce que ça, c'est le fondement de l'expérience de la vie. Oui. C'est la croissance, la digestion. Lentement, réfléchissez sur votre digestion, silencieuse. Puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrête. Oui, très bien. Cet émiettement continu qui n'altérait pas la physionomie du tout est brusquement interrompue par le lever du soleil qui, dans un éclair, dessine en une fois la forme du nouveau monde. Très extraordinaire de voir ce que représente ce moment. L'esprit ne se trouve jamais dans un état de repos. Pas de contemplation, c'est évident. Hegel ne contemple pas. Il ne peut pas y avoir de repos. Donc l'esprit ne se trouve jamais dans un état de repos. Mais il est toujours emporté dans un mouvement indéfiniment progressif. Seulement, il en est ici comme dans le cas de l'enfant. Oui. Donc, ce mouvement progressif, le cas de l'enfant. Après une longue et silencieuse nutrition, la première respiration, dans un saut qualitatif, interrompt brusquement la continuité de la croissance seulement quantitative. Et c'est alors que l'enfant est né. L'aspect qualitatif de la respiration. Nous sommes avec Hegel en présence d'une nouvelle conception de la qualité, une conception dialectique. La qualité détermination limite permet le passage de la quantité à la mesure. La qualité n'est plus saisie en elle-même, mais comme essentiellement relative à la quantité et à la mesure. Et je crois, alors ça c'est très important. Vous ne saisissez plus la qualité, elle n'a plus ce moment qui est propre à la qualité d'être indivisible. Elle est au contraire essentiellement divisible. C'est pour ça que la qualité n'est jamais saisie dans toute sa pureté. On peut même dire que la qualité constitue le Dasein et permet de comprendre comment il est pensé. Si je dis qualité, je dis déterminabilité simple. Au moyen de la qualité, un Dasein est distinct d'un autre, ou est justement un Dasein. Il est pour soi-même où subsiste moyennant cette simplicité à l'égard de soi. Mais ainsi, ajoute Hegel, le Dasein est essentiellement la pensée. Et il souligne, c'est ici qu'on conçoit que l'être est pensée. Ici se trouve à sa place cette façon de voir qui tente d'éviter les discours habituels privés de concepts au sujet de l'identité de la pensée de l'être. La qualité nous permet donc de saisir radicalement le passage de l'être à l'esprit par le moyen de la mesure. Ça, c'est très intéressant si on essaie de comprendre dans la philosophie hegélienne ce que représente la qualité. La qualité nous permet donc de saisir radicalement le passage de l'être à l'esprit par le moyen de la mesure. La loi du renversement, c'est encore cette pensée dialectique de la qualité, c'est la loi du renversement de la quantité en qualité. C'est une chose extrêmement importante. Parce que ça, point de vue, c'est, vous voyez, le renversement de la quantité en qualité. Au bout d'un certain moment, la quantité devient qualité. Voyez, ça explique le saut dialectique de la qualité. Tout d'un coup, il y a la respiration. La doctrine du progrès quantitatif se muant en bon qualitatif. Doctrine vivement critiquée par Kierkegaard et reprise par Marx, Engels, et constitue pour le matérialisme dialectique une loi universelle de la nature, de la société et de la pensée. C'est là où vous saisissez vraiment le point de vue de du matérialisme dialectique. C'est de comprendre qu'il y a des sauts qualitatifs qui apparaissent à travers la quantité. À la suite de Marx, la philosophie soviétique contemporaine considère que la loi du passage de la quantité à la qualité est nécessaire à la compréhension de l'évolution dialectique de la matière. Pas d'évolution dialectique de la matière sans ce passage de la quantité à la qualité. Et ça, je crois que c'est capital. Et ça, c'est la philosophie hegelienne. Et c'est peut-être un des aspects les plus nocifs de la dialectique hegelienne. Oui, de voir que, de fait, on peut passer de la quantité à la qualité. Il y a un passage qui fait que donc le monde se ramène à la quantité. Et par le fait même, vous voyez, la réduction de la vie à la quantité, la réduction de l'esprit à la quantité. Vous avez ce domaine qui se fait, à partir de là, tout est possible. Tout est possible parce que la qualité s'explique uniquement par un passage dialectique de la quantité.
Vous êtes bénie entre...